l'édition de cette année, un petit retour en arrière sur les éditions précédentes pour vous mettre dans l'ambiance de ces rencontres à travers quelques morceaux choisis parmi la multitude de podcasts que vous pouvez retrouver sur le site de Concertina Les Rencontres. Il faut bien marquer les rencontres parce que sinon on tombe sur la présentation de ce petit instrument Concertina. Mais Concertina, c'est aussi ces barbelés qu'on trouve sur les lieux militaires, par exemple, et les prisons, bien sûr. Et voilà, sur le site de Concertina, onglet Ici Long, vous retrouvez l'intégralité des podcasts qu'on y a mis depuis 2021, donc les éditions 2021, 22, 23 et 24. Alors, le premier son qu'on va entendre, c'est à propos des deux mutineries qui ont eu lieu en 2016 au centre pénitentiaire de Valence, un centre ultra moderne qui venait juste d'être mis en service, donc en 2016. Une prison à l'américaine avec plus de 500 caméras vidéo de surveillance, des grillages partout, des longues peines incarcérées qui venaient de maison centrale et qui se révoltent. Et 5 ans après, donc en 2021, pour la première édition de Concertina, les plaies étaient toujours ouvertes, je suppose qu'elles le sont d'ailleurs toujours, et par contre les portes toujours fermées. Et un documentaire avait été fait à cette époque pour donner la parole aux mutins de Valence. C'est un extrait de l'enquête de Edel Betroumi, Adèle Chiron et Marie Loni, qui étaient élèves à l'école de journalisme ESJ Pro de Montpellier, que vous allez pouvoir entendre et que vous pouvez donc retrouver en intégralité sur le site de Concertina. On écoute les mutins.
Quand on a une grosse peine, pour éviter un état colérique, la frustration, c'est normal d'avoir des espaces de promenade et pas que de la sécurité. Dans ces nouvelles prisons, c'est 5 surveillants à chaque ouverture de porte. Quand on nous fouille et nous écarte l'anus, la dignité l'emporte. C'est géré comme une prison de haute sécurité. On se croirait encore au QHS dans ce système des années 70-80.
C'est vraiment des lieux qui sont faits... On parle de la prison comme un lieu déstructurant, mais là, on passe au cap supérieur, c'est plutôt un lieu déshumanisant. Voilà. Comme j'aime à le souligner, la prison... La personne détenue, on est un petit peu dans, comme si on était un tas de viande posée au milieu de 9 mètres carrés. C'est ça.
Nous sommes en 2017 au centre pénitentiaire de Valence, une semaine après le procès des deux mutins.
Quand le ministre de la Justice découvre le quartier de la maison centrale de la prison de Valence endommagé, la consternation se lit sur son visage. Les dégâts sont considérables, près de 1 700 000 euros. Deux mutineries l'année dernière dans un même établissement est inacceptable pour Jean-Jacques Curvoas.
Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait que dans cet établissement, on a deux mutineries. Ça, c'est singulier. Ça, c'est particulier. Ça, c'est inacceptable. Et c'est cela qu'il faut changer. Et ça ne peut se changer que par le travail collectif.
Malgré ces mots de l'ancien ministre de la Justice, presque rien n'a vraiment changé aujourd'hui. En juillet, 8 contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté publient leur rapport. 115 pages sur cette prison, leurs conclusions sont accablantes. Les détenus n'ont pas accès au travail, aux études, les cellules et les cours sont exigus. Les portes constamment fermées. Pour l'avocate Roxana Nasserzadeh, le rapport des contrôleurs est extrêmement important. Il permet de légitimer la parole de certains détenus confrontés parfois à un mur.
C'est spécifique en fait aux institutions judiciaires françaises que de ne pas avoir en considération finalement le rapport du contrôle général des lieux de privation. Les autres institutions judiciaires européennes prennent très au sérieux le rapport du contrôle général des lieux de privation, les rapports qui peuvent être faits par l'OIP, les études qui sont menées par Prison Insider. Pour eux, ce sont des preuves.
On a des agents qui sont peu expérimentés parfois, qui se retrouvent seuls avec 20 détenus sur une coursive qui, eux, ont 30 ans de pénitentiaire. Ils ont mis des grilles de partout pour plus qu'il y ait de mutinerie. Que l'administration n'a pas compris parfois, c'est que si jamais il n'y a pas une mutinerie, ça sera autre chose. Ça sera une prise d'otage, ça sera... Enfin, ouais, vous voyez, mettre des grilles de partout, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Si jamais on veut que ça se passe bien et que les tourner vers une certaine réinsertion, voilà, ben peut-être qu'il va falloir ouvrir des portes. Je sais pas, je pose la question. Comme ça, en voulant faire quelque chose de sécuritaire et en mettant des grilles de partout et en voulant que ça se passe bien avec peu de monde, ouais, je sens que c'est mal barré quand même.
Les rencontres Concertina, c'est souvent donc des témoignages, des rencontres avec des personnes d'horizons diverses, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'enfermement. Ces rencontres qui font la matière vivante de ces journées qui sont très riches, il faut bien le reconnaître. Et c'est aussi des tables rondes qui brassent ces sujets de fond, comme celle que nous avions eue avec Florence Loffer, pardon, de Prison Insider, et Roxana Nazerzadeh, que vous venez d'entendre effectivement aussi à propos de ces mutineries. Il y avait aussi Damien Escalia, professeur et directeur du Centre de recherche en droit pénal à l'Université de Bruxelles, et François Saint-Pierre, avocat généraliste et écrivain, qui était auteur, qui est toujours d'ailleurs l'auteur de, entre autres, Un pays qui voudrait être libre, chronique d'une accoutumance sécuritaire. On écoute un extrait de cette table ronde.
Un constat qui est fait à l'international, c'est que la prison a peu à voir avec le maintien de l'ordre. Le taux d'incarcération n'est pas corrélé à la criminalité, aux incivilités. C'est beaucoup plus le résultat d'une politique. Et le constat qui est fait dans la majorité du pays du monde, c'est que les personnes en prison sont des pauvres, sont des minorités, sont des opposants politiques, sont des gens différents. C'est beaucoup les gens différents qu'on retrouve aux prisons, et c'est rarement les gens au pouvoir, aux porteurs de pouvoir. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on puisse, et on y viendra penser du sens de l'enfermement, ou du sens déclaré, ou de l'inefficacité de l'enfermement, ce qui est certain, et ça c'est aussi un constat dans l'énorme majorité des prisons du monde, c'est que l'enfermement abîme. L'enfermement ne répare pas, ne reconstruit pas. C'est donc d'une certaine façon une solution qu'il faut questionner, soit dans son intégralité, soit dans ses parties, pour voir qu'est-ce qui se passe en prison qui empêche toute une partie de personnes emprisonnées de ressortir avec quelque chose qui pourrait potentiellement les aider à refaire société.
Le système pénal repose sur la prison, repose sur son opacité, repose sur cette peur qu'on veut de la prison, et on aura beau l'ouvrir, on aura beau y faire rentrer du culturel, y faire rentrer des associations, y faire rentrer des droits, on reste avec un système pénal qui surincarcère la population, on reste avec une surcriminalisation des comportements, et il faut, à mon avis, sortir un peu de la bouteille à mouche pour sortir du droit. C'est-à-dire ne pas rester dans ce système pour voir clairement que ce maintien de l'ordre est un ordre que les anars ou les marxistes diront un ordre bourgeois, ou en tout cas, on voit bien que les comportements criminalisés sont certains types de comportements. Pour preuve, quand vous voyez les comportements qu'on dit la criminalité en col blanc, celle-ci ne passe pas par la case prison, ne passe même pas par la case pénale, bien souvent. Et c'est ici un choix politique, et il ne faut pas oublier que le droit... et ces lois sont des outils politiques de domination. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, à mon avis, sortir de cette domination pour pouvoir remettre en cause la prison elle-même et le pénal qui est consubstantiel à cette prison et inversement.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, chaque magistrat a, de par le code pénal, la possibilité de ne pas envoyer la personne qu'elle vient de condamner à la prison. Plus encore, le législateur lui impose le fait de choisir la prison ferme exécutée immédiatement, en tout dernier choix, lorsqu'il n'y a plus aucune possibilité. Il n'empêche qu'il y a effectivement une surincarcération des personnes. Donc c'est le système pénal qu'il faut interroger.
Je crois que la prison a pour racine une culture de la punition, et Roxana Nazarzadeh, dans sa très belle conférence de cet après-midi, expliquait bien que c'était devenu la peine de référence à partir de la Révolution française, et plus exactement dans le code pénal napoléonien. C'est devenu une référence systématique et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et je prends un exemple bien concret. En 2014, la ministre de la Justice était Christiane Taubira. Elle avait fait voter une loi qui prévoyait une nouvelle peine qui s'appelait la contrainte pénale. Le mot même de prison, d'emprisonnement, n'était pas employé. Or, cette peine, c'était ni plus ni moins que l'équivalent d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve. Donc on s'est interrogé sur la question de savoir pourquoi donc cette peine n'a quasiment jamais été appliquée par les magistrats, au point qu'en 2019, donc 5 ans après, elle a purement été, simplement été abrogée du code pénal par une nouvelle loi. Et je pense que le fait même que cette peine ne comportait pas le mot prison, eh bien, a fait qu'elle n'a pas été du tout utilisée. Donc nous avons un réflexe culturel extrêmement profond qui fait que toutes
doit, par principe, être puni d'une peine d'emprisonnement.
Alors, nous sommes toujours donc sur Ici l'Ombre, la radio qui suit les rencontres concertina sur les enfermements. On vous a fait entendre déjà deux extraits de ce qui s'était passé les années précédentes pour donner le ton de ces rencontres, donner l'esprit. Mais l'enfermement, ce n'est pas que la prison, c'est aussi la psychiatrie, ça peut être aussi les centres de rétention administrative. Voilà, je cherchais le nom, les CADA, tout ça. Et entre autres, il y a eu un échange assez intéressant, bien sûr, sinon je ne serais pas permis de vous le repasser, avec Sylvie Gerbeau, ancienne directrice du 3BIS-F à l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence. Le 3BIS-F, je vais y arriver, est un centre d'art contemporain qui accueille des artistes en résidence de création dans les murs de l'hôpital psychiatrique, donc à Montperrin, à Aix. Et donc elle explique finalement comment la pratique artistique s'est invitée dans les hôpitaux psychiatriques, et ça dès le début des années 80. Alors c'est pas partout, c'est pas tout le temps, mais quand ça existe, ça permet aussi de sortir un peu de l'enfermement et en l'occurrence de l'enfermement psychiatrique. On écoute.
J'ai toujours plaisir à raconter l'histoire du 3BIS-F et sa création, parce que c'est vraiment le récit d'une aventure. C'est une aventure qui a été imaginée dans les années 80, donc à Aix-en-Provence. Il faut dire que les années 80, c'est une période de modification du fonctionnement de la psychiatrie en France, qui s'est modifiée dans l'idée d'aller au plus près des gens, d'une part, et d'autre part, d'arrêter un peu les hospitalisations à vie. Donc à ce moment-là, c'était aussi une période très active, on va dire, de la psychiatrie, avec une modification quand même du regard porté sur la folie et des mouvements d'organisation des psychiatres nouveaux. Quoi. Voilà. Donc je vous ai dit, c'était une ambiance assez dynamique. Et s'est créé donc un groupe de gens assez hétérogènes, aussi bien du personnel soignant, que, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues, des infirmiers psy, enfin des gens qui travaillent dans le soin, dans la psychiatrie, que des artistes et des gens de la société civile, avec l'idée de créer un projet à partir d'une part de cette disponibilité de locaux, et d'autre part, en tenant à développer des principes de rapport à la folie nouveaux. Donc, idée, par exemple, de faire en sorte que l'hôpital appartienne à la cité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas exclu de la cité comme la plupart du temps il est. Donc, que l'entrée dans l'hôpital se fasse plus facilement et que ces mouvements-là soient possibles, en utilisant notamment le fait que cet hôpital est centre-ville. Donc, précisément dans cet hôpital, deux pavillons se sont vus vides. Donc l'idée, ça a été d'en utiliser un pour recevoir des non-spécialistes, ne pas laisser la psychiatrie juste aux mains des spécialistes, donc faire entrer des non-spécialistes, en l'occurrence des artistes. Un des fondamentaux du projet, c'est de travailler à la modification du regard sur la folie, c'est-à-dire travailler sur ce qui rapproche les gens, quel que soit leur statut ou leur état, plus que sur ce qui les différencie. Et alors, il y a trois grandes idées qui sont sorties de là, de ce travail en commun. Le troc, pour la première idée, la déségrégation, pour la seconde, et la troisième, qui s'appelle le non-thérapeutique a priori, enfin, qui sont appelés comme ça. Alors, le troc. Le troc, c'est l'idée de proposer aux artistes de venir, mais pas dans un rapport marchand, de location d'espace, mais dans un rapport d'échange. C'est-à-dire, on te file de l'espace pour travailler, et en contrepartie, tu ouvres ton travail, tu permets aux gens qui viennent te rencontrer d'aborder ta démarche, de rentrer dans ton univers et de pratiquer avec toi. La déségrégation, pour la deuxième idée, c'est un concept plutôt géographique, mais ça parle tout seul, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait du lien entre la cité et l'hôpital, et que l'hôpital soit inclus dans la logique de la cité. Et le non-thérapeutique, a priori, ça c'est une notion qui a beaucoup posé de problème dans, au début de la mise en place du projet et de sa reconnaissance par l'institution, puisqu'on est quand même dans une institution qui est là pour soigner. C'est quelque chose qui est très important en ce que ça définit la relation des gens entre eux, enfin du soignant et du soigné, pas par justement sa fonction. C'est-à-dire, les gens qui sont là, ils ne sont pas là en tant que soignant ou en tant qu'artiste ou en tant que personne hospitalisée ou personne suivie à l'extérieur en psychiatrie, etc. Ils sont là en tant qu'eux-mêmes. Les gens qui viennent, c'est un lieu qui est ouvert tous les jours pour venir pratiquer, pour venir rencontrer des artistes. Et il n'est jamais demandé aux personnes qui elles sont. Elles jouent le rôle qu'elles veulent. Si elles veulent raconter qu'elles sont hospitalisées, elles le font. Si elles ne veulent pas, elles ne le font pas. Et du coup, ça change beaucoup le regard. Les personnes qui viennent de l'extérieur, ils ne savent pas qui est patient, qui est... Et du coup... Eh bien, ça interroge sur la frontière, elle est où ? Moi, je suis où dans cette frontière-là ? De quel côté ? Du bon, du mauvais ? Voilà. Et ça travaille toutes ces images toutes faites qui se trimballent sur la folie. Voilà.
Alors, le fil conducteur de l'édition 2025, venons-en quand même à cette édition, maintenant qu'on a bien recadré l'esprit des rencontres, c'est l'appétit. Cette édition est présidée par Pénar Selek, qui est sociologue franco-turc, et que nous aurons ce soir sur notre plateau de l'apéro, au moment de l'apéro. On se fera plaisir avec deux grandes personnes. Alors, l'appétit, donc, sous toutes ses formes, concertina va donner à rencontrer des personnes au long parcours carcéral ou psychiatrique et qui témoignent d'un appétit de résilience et de philosophie, de fraternité, d'apprentissage, de bon mais et de partage, toujours et bien sûr, pour nous aider à comprendre leur parcours. Je reprends simplement les mots de présentation du livret de concertina. Soyons simples. Et Ici l'Ombre, la radio Ici l'Ombre, vous fait profiter au mieux des rencontres et aussi pour, nous faisons tout ça pour en garder la trace de ces rencontres, garder une c'est pas une bibliographie, mais c'est une bibliographie orale, les archives, oui, tout simplement, les archives. Alors, le programme d'Ici l'Ombre pour ce vendredi, après notre matinale, il y aura Super Mix, un max de sons, que vous retrouverez aussi à 16h30, des sons liés à l'appétit. Et puis à 12h30, ce sont les grands entretiens animés par Florence Bolomé, qui se trouvent sous le grand chapiteau. Cette fois, ce n'est pas dans le studio de Ici l'Ombre. Et aujourd'hui, vendredi, il y aura Corentin Blanchard avec Florence. Corentin qui dévore les livres en prison. Il est aujourd'hui poète, réalisateur et scénariste. Acteur jeunesse et formateur, engagé dans la prévention de la délinquance, de la récidive et des phénomènes de RICS. Il intervient auprès des jeunes et des détenus par la paire aidance, paire PAIR bien sûr, par la paire aidance, le témoignage, la culture, l'art littéraire pardon, et le sport. Et puis à 17h, c'est le donc Happy Hour avec l'ai-je bien dit, avec aujourd'hui comme invité donc Pénar Selek et Didier Fassin sur le plateau de Ici l'Ombre. Pénar Selek est donc présidente de cette édition 2025, sociologue, et qui a travaillé sur la diaspora politique kurde, ce qui l'a mené directement dans les prisons turques d'ailleurs, où elle a subi la torture, et après quatre acquittements, elle est toujours sous la menace d'une condamnation à perpétuité en Turquie. Elle est arrivée en France grâce au programme PAUSE, P-A-U-S-E, qui est l'accueil en urgence de scientifiques et artistes en exil. Et Didier Fassin, lui, est professeur au Collège de France. Il a la chaire Questions morales et enjeux politiques. Il est professeur des sciences sociales à Princeton, aux États-Unis. Alors, l'accent anglais, c'est pas mon truc. Il animera aussi à 18h45, juste après le plateau, donc toujours au Parc de la Baume, une conférence intitulée « Bon appétit, messieurs, au ministre intègre, réflexion sur le désir de punir ». Voilà, ces rencontres, c'est beaucoup d'ateliers, des conférences, des films, des expositions. Vous retrouvez l'intégralité des programmes du programme de Concertina sur le site de Concertina, bien sûr. Il y a un stand à l'accueil aussi à l'entrée du parc qui porte bien son nom puisque vous y êtes accueillis pour tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin si vous décidez de venir profiter de ces rencontres. Il y aura aussi à 16h30... Je dis aussi, c'est-à-dire qu'on a vu le programme de Ici l'Ombre. Maintenant, je vais faire un petit focus sur le programme des rencontres. Donc, à 16h30, deux expositions. Une sur les festins imaginaires en présence de la collectrice Anne Georget, qui a donc collecté des carnets de recettes de cuisine rédigés dans les camps nazis. Elle est aussi réalisatrice du documentaire Festin imaginaire, qui passera aussi dans le cadre des rencontres. Et une autre exposition à 16h30, Face à la mer, plusieurs mois de confinement sur un bateau de la marine marchande. C'est une visite commentée, à 16h30 de l'exposition de Grégoire Korganov, qui est photographe. C'est aussi au parc de la Baume et nous aurons Grégoire Korganov avec nous sur le plateau de Happy Hour demain samedi. Et à 18h15, c'est les trois coups pour ouvrir le bal, ouvrir les rencontres avec Mathias Guillaumard, qui est président de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est au parc de la Baume au chapiteau ce soir à 18h15. Et à 20h15, la journée des rencontres se conclut par un spectacle, 20h15, au parc de la Baume toujours. Rapprochons-nous. Ce sont trois personnes qui sculptent un espace sonore et visuel avec un bastin pour point d'ancrage, une espèce de truc ancré dans le sol, un bastin, voilà, tout simplement. C'est Alexandre Denis, Frédéric Arsenault et Christophe Bruyat de La Mondiale Générale. Oui, La Mondiale Générale, c'est un drôle de nom, mais c'est un cirque de situation. Il y a toujours des noms très spécifiques pour les cirques de rue. Le nombre de places est limité, attention, hein, ce soir à 20h15 au Parc de la Baume, mais c'est à partir de 10 ans. Voilà pour une partie du programme de Concertina. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Venez au Parc de la Baume et dans différents autres lieux de la ville, tout sur le site de Concertina. Vous saurez tout.
On va de ci, de là, mais on reste à l'ombre. Ici l'ombre, la radio qui scie les barreaux pour couvrir les rencontres Concertina.
Alors, nous sommes donc toujours sur Ici l'Ombre et cette fois, nous sommes avec nos invités, Dominique Simoneau, contrôleur. Alors voilà, c'est un nom très compliqué, très ça sexy.
Oui, c'est sûr.
En tout cas, contrôleur des lieux de privation de liberté. Bonjour.
Bonjour.
Et Pauline Lemaire, qui est directrice de Radiola ou quelque chose comme ça.
Bonjour.
Radiola, la radio web de Diolfi, donc. On vous a invité sur cette matinale, la matinale la plus tardive de l'histoire de la radio, pour parler d'une série de podcasts dont le premier épisode sera écoutable ce soir demain soir.
Alors, c'est demain matin,
demain,
samedi.
Demain matin, voilà. Demain matin, 9h.
9h à la halle de Diolfi. Et on va découvrir le premier épisode d'une série qui sera composée de 6 épisodes. Une série de podcasts tournés à l'intérieur des lieux de privation de liberté. Mais Dominique va en parler mieux que moi, puisque, évidemment, c'est son idée et c'est l'idée de ses équipes et c'est la réalisation du contrôle général des lieux de privation de liberté.
Et à propos des lieux de privation de liberté, justement, on en est à un point quand même désastreux, au point que Le Parisien en parle.
Mais Le Parisien est un très bon journal. Et en tout cas, il fait sa une aujourd'hui sur prison, ça craque de partout. Et il fait état d'alertes lancées par le directeur interrégional de la pénitentiaire en Occitanie, qui dit « Je n'ai plus de mètres carrés pour mettre des matelas au sol. Et je n'ai même plus de matelas à mettre au sol, d'ailleurs. » C'est épouvantable. Nous, on sort d'une prison surpeuplée à 200%. Il faut savoir ce que c'est que de vivre par terre, sur le matelas, la tête près des toilettes, souvent. La tête près des toilettes, souvent, avec du papier toilette dans les oreilles, dans le nez, pour pas que les cafards rentrent, ne pas pouvoir aller chez le médecin, parce qu'il n'y a plus assez de surveillants pour vous amener chez le médecin.
Le dentiste ?
Le dentiste. Il y a des gars, ils se percent. D'ailleurs, je l'ai fait pendant le Covid, j'ai vu ce que c'était.
Des abcès,
ils se percent un abcès avec un truc coupant. Imaginez.
Ah oui, tout à fait.
Imaginez ce que c'est que de faire ses besoins naturels devant tout le monde, des gens qu'on ne connaît pas. Imaginez toutes les humiliations que ça entraîne et tous les empêchements à la réinsertion. Parce que c'est surtout ça. Moi, j'entends très bien des gens qui me disent on s'en fiche finalement de leur sort à ces gens-là. Ils ont fauté, ils ont qu'à être punis, on s'en fout. Oui, on s'en fout certes, mais ils sortent. Et autant qu'ils sortent, meilleur qu'ils ne sont entrés. Or là, rien n'est fait. Rien n'est fait pour que ça se passe comme ça. Il n'y a pas, je vous dis, il manque 6000 surveillants en France, donc il n'y a pas assez pour emmener les détenus aux activités, quelles qu'elles soient. C'est une situation... et donc, la loi est bafouée tous les jours. La loi qui veut que la prison prépare à la réinsertion et à la réintégration dite paisible dans la société.
Le sens de la peine a complètement été oublié.
Totalement. Et moi, je veux bien qu'on vienne nous raconter que entasser plus. Mais vous savez, je parle très souvent avec des directeurs de prison, mais là, ils sont, je dis pas en panique, mais ils ont très très peur de très graves accidents.
Bien sûr, oui. Oui, les mutineries, elles n'arrivent pas par hasard.
Mais que ce soit une... Vous savez, c'est pas qu'une mutinerie. Ça peut être aussi les systèmes électriques complètement défaillants que nous, on voit et qu'on signale toujours qui flambent.
Des incendies.
Des incendies. Et là, il y a eu 5 morts ces derniers mois de jeunes détenus tués par leurs co-détenus. Et les 3 derniers, c'est 3 jeunes qui disaient « Je vous en supplie, sortez-moi de ma cellule, mon co-détenu me fait trop peur. » Il va m'arriver quelque chose, il est fou. Vous savez qu'il y a 30 à 35% de fous en prison, parce que tout ça, c'est dû à la faillite de la psychiatrie, en grande partie. Et ils suppliaient, on ne les a pas entendus. Il n'y a pas les surveillants pour les entendre, ou je ne sais pas.
Il n'y a pas l'encadrement aussi pour ensuite prendre en charge la psychiatrie. Y a pas
non. Arrêt. Et ces 3 jeunes hommes sont morts, l'un égorgé, l'autre tabassé, et le troisième... C'est une histoire que je trouve mais horrible et qui montre qu'on a perdu toute raison. C'est un monsieur qui est atteint de...
C'est incontinence fécale.
Merci, incontinence fécale. Donc, il se faisait dessus en permanence. Son co-détenu disait « Je ne peux plus le blairer, je ne peux plus le supporter. » Il l'a torturé pendant 5 jours. Et il l'a tué. Est-ce qu'on se rend compte de l'humiliation pour le monsieur qui a été tué, d'être dans cet état devant quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on se rend compte de l'horreur que c'est de vivre enfermé dans 6 mètres carrés avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie? Est-ce que la raison nous demeure là-dedans? Est-ce qu'on n'a pas tous perdu la boule et notre société avec, qui je trouve est très avide de répression, sans se rendre compte que les détenus sortent tous les jours et que mieux vaut qu'ils sortent meilleurs que pires?
Très avide de répression et qui se satisfait d'images toutes faites sur la soi-disant vie des détenus qui auraient tous la télévision, et etc. Quoi.
D'abord, la télé, ils la payent, hein, le frigo, ils le payent. Oui. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des petits lascars qui postent sur les réseaux des trucs où ils se marrent en prison. Ils font les cons, ils font des signes, ils chantent, ils... Bon. Nous, on les récupère en cellule, c'est pas du tout ça. Hein. Ils pleurent.
D'où l'intérêt aussi de la réalisation de cette série de podcasts, oui, Les Enfermés.
Venons-en quand même au podcast.
Parce que montrer pour la première fois les lieux de privation de liberté et la prison de l'intérieur, c'était un peu l'idée, Dominique, non?
C'est ça. Notre idée, on s'est dit, mais tout à coup, finalement, on est les seuls à pénétrer dans tous ces lieux, à pouvoir aller partout. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de nous empêcher d'aller dans telle cellule, rencontrer tel malade, rien, on va partout. On parle à tout le monde. Et on s'est dit, c'est un trésor qu'on a dans les mains, parce qu'on a fait parler les détenus, les surveillants, les infirmiers, les médecins, les malades, les étrangers en centre de rétention, les policiers qui les gardent. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que ça donnera une idée... de la vie à l'intérieur.
Une idée plus juste, oui.
On a apporté un extrait, justement, ce premier épisode réalisé par Marie Goyechea raconte... C'est bon, j'ai réussi.
Non.
Goyechea, pardon.
C'est pire que l'anglais, pour moi.
C'est le basque.
Qui sera là demain à la rencontre et à la projection du premier épisode.
Demain, 9h à la...
Et on se rend compte, c'est le premier jour des personnes dont on va entendre le témoignage, cet épisode. Hein. C'est ça, c'est le premier jour d'enfermement.
C'est le premier jour, les premières sensations, ce qu'on éprouve quand on rentre pour la première fois dans une cellule, dans une chambre d'hôpital psychiatrique, ou dans un centre de rétention.
On écoute.
Vous allez entendre le récit du premier jour, de la première minute, de la première sensation de l'enfermement. On va commencer par la prison, avec Estelle qui nous raconte son arrivée.
Je suis arrivée dans la nuit et j'ai fait une photo, c'était pour faire ma carte. Après, je ne comprenais pas parce qu'en revenant de la garde à vue, j'avais fait peut-être 2-3 jours, je ne me rappelle plus de garde à vue. Donc je suis arrivée dans la nuit ici. Donc on m'a demandé si je voulais prendre une douche. Et oui, je voulais prendre une douche parce que je ne m'étais pas lavée pendant plusieurs jours. Et puis je ne savais pas où est-ce que j'allais. On me disait là, mais on est dans l'inconnu quand on arrive ici et tout. Et puis après, on m'a mise dans une cellule en QA, quartier arrivant, QA19. Donc quand on arrive dans une cellule et tout, on quitte sa vie de dehors, on est complètement... on ne comprend pas ce qui se passe. Et je me suis mise à regarder la cellule, des quatre coins et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et puis j'ai allumé la télé. Enfin, la surveillante, elle m'a expliqué comment ça se passait, mais j'ai rien entendu. Elle a parlé, mais c'était un bruit de fond. Après, on m'a donné... on nous donne un sac d'arrivante avec les draps, les coussins, des serviettes, des gants, des torchons, des couverts, des assiettes, enfin, pour qu'on puisse s'installer. Et après, on nous dit, oui, demain, ça va être la promenade, il faut être prête. Enfin, on nous met en condition de détenus, de prisonniers. Je me rappelle qu'au début, j'allumais la télé, mais j'entendais pas la télé, je voyais pas la télé. Et j'ai vu une infirmière, parce qu'elle a vu que j'étais complètement perdue et tout. Elle m'a dit, écoute-moi, ici, tu dois faire corps avec la prison. Et ça va aller. Et franchement, cette phrase-là, je vais jamais l'oublier parce que je pense que ça s'est resté et je me suis dit que je peux faire corps avec la prison parce que je me connais, mais je vais m'adapter en fait à la situation.
Alors, pour la comptabilité, vous arrivez ici sans bijoux. C'est bien ça? Donc il me faudra une signature ici.
Ici
là. La télé, elle est gratuite le temps de votre quartier arrivant. Après, elle sera 14,15€ si vous la voulez. Une croix ici, une signature ici.
Et la cabine, elle est active directement, là?
La cabine n'est pas encore active, mais vous allez avoir la carte téléphone à 1€ arrivant. Vous allez pouvoir prévenir votre famille.
Alors là, vous avez les choses en cellule. On fait toujours un pré-état des lieux, on sait ce qu'il y a. Et je vais repasser dans l'après-midi, on vérifiera ensemble.
C'est délabré, mais c'est la prison. C'est comme ça, on va le nettoyer, ce sera propre. Il faut désinfecter.
La jeune femme que vous allez entendre maintenant, je l'ai croisée par hasard un jour où je suivais le chariot de la cantine à travers une coursive. Je lui ai demandé si elle voulait me parler. Je suis entrée dans la cellule. Elles étaient deux là-dedans, avec des lits superposés à la structure un peu rouillée. J'ai jeté un œil sur les vitres parce qu'il faisait tellement froid et j'ai vu une couverture, tant bien que mal roulée autour de la fenêtre pour tenter d'empêcher l'air glacé d'entrer. Et puis, elle m'a raconté.
C'est horrible, c'est... Je pense qu'il n'y a même pas de mots en fait pour décrire, clairement. Quand j'étais au quartier arrivant, j'entendais la sonnerie de mon téléphone tout. Et je me réveillais, je cherchais mon téléphone, il n'y avait pas mon téléphone. Et après, chacun sa situation personnelle et tout, mais vous savez, quand vous arrivez dans un endroit qu'on ne vous comprend pas... Je vais vous raconter un truc. Quand je suis arrivée, on avait 1 ou 2 heures de promenade, je crois, par jour. Ou alors c'était bibliothèque ou salle de sport. Et du coup, on était enfermés. Et donc, j'étais enfermée dans la salle des bibliothèques. Et 5 minutes après, je demande à la servante si je peux rentrer dans ma cellule. Je me sentais pas bien, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et j'étais vraiment pressée, j'avais mal au ventre. Et je suis sortie de cette bibliothèque en m'étant limite urinant dessus. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que les surveillants, en fait, ils essayent pas de... Après, je peux comprendre que c'est leur travail, etc. Qu'il faut être un minimum, avoir un cadre, etc. Mais quand t'arrives, je pars du principe que t'as besoin d'un minimum d'accompagnement.
Et nous sommes toujours sur Ici l'Ombre avec Dominique Simoneau, contrôleuse des lieux de privation de liberté. En écoutant ces témoignages et évidemment l'émotion qui nous vient parce que trop chaud l'été, trop froid l'hiver et des conditions pénibles. Et puis la première fois qu'on rentre là-dedans, vous arrivez à prendre le recul suffisant pour être contrôleuse depuis pas mal d'années? C'est une question un peu candide, mais c'est celle qui me vient en premier en écoutant tous ces témoignages.
D'abord, j'ai eu la chance de recevoir à ma naissance, je pense, un tempérament assez
optimiste
et parfois dur. Non, mais dur, pas dur.
Pour supporter.
Pour supporter, voilà. Et parce que je suis pas très dure autrement. Mais et voilà, mais il en faut parce que j'ai moi mes collègues. Moi, j'y vais le plus que je peux les accompagner. Mais mes collègues, c'est 15 jours par mois qui se prennent dans la figure des horreurs. Donc, c'est très, très dur. C'est vrai que l'autre fois, j'ai rencontré, je vais être triviale, mais j'ai rencontré une collègue dans les coursives. Je lui dis, ça va, elle me dit pas du tout. Parce que c'est le troisième type qui me dit, j'arrive plus à aller chier. Parce que j'y vais quand mes co-détenus sont en promenade, alors moi, je vais plus en promenade. Ou alors, je mange le moins possible pour évacuer le moins possible. Et le troisième, c'est je me retiens, mais j'ai des énormes problèmes intestinaux. Mais est-ce qu'on se rend compte?
On ne se rend pas compte du tout.
C'est ça. Et je l'ai vu d'ailleurs, je suis allée voir des gamins. Je vais un peu partout porter la bonne parole, disons. Et maintenant, j'y vais avec mes photos de prison, justement pour contrer cette image des mecs qui font « Ouais, nous, on se marre, on rigole. » Et je leur montre ce que c'est que les cellules, l'intérieur, ce que c'est que de vivre avec des punaises de lit qui se détachent du plafond et qui vous tombent dessus, ce que c'est que de vivre avec les rats qui cavalent, ce que c'est que la prison, en fait.
Et c'est donc bien l'objectif des podcasts, de la série de podcasts qui ont été réalisés par les contrôleurs donc des lieux de privation de liberté. Il y a combien de podcasts en tout qui seront
alors il y aura 6 épisodes qui sont attendus pour la fin de l'année, je crois, hein, à peu près.
Le premier est donc écoutable demain, 9h, à la halle à Dielphi.
Et en discussion, donc, j'aurai le plaisir de modérer avec Marie Goycoechea, donc la réalisatrice, et Paul Louchouarn, directeur. Donc Paul Louchouarn, qui est un habitué aussi de Concertina, qui est directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Et ce sera l'occasion d'aborder la circulation des informations, puisque, comme le dit Dominique, en début de ce tout premier épisode, c'est très difficile de rentrer dans les prisons et ils font partie des seuls, ces 70 contrôleurs qui ont le droit d'y aller. Donc voilà, on va parler de ça, les médias, comment l'information circule, le droit de réserve, l'envie de parole aussi et l'envie d'écouter d'un côté et de l'autre, voilà, entre les médias et les lieux de privation de liberté.
Et en tout cas, donc demain, 9h à la halle, c'est une avant-première.
Merci.
Merci beaucoup Dominique Simoneau, merci Pauline Mère d'être venue dans cette matinale pour nous parler de la réalité, la vraie réalité des prisons, la et vraie. Pas celle qu'on imagine, la terrible réalité même. Et justement à propos de prison, eh bien on va faire un petit point sur l'actu des enfermements, c'est une rubrique que nous aurons dans chaque matinale, donc aujourd'hui, demain et dimanche. Pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe actuellement dans les prisons. C'est une rubrique qui est préparée par Louis Perregaux. Voilà, on écoute.
L'actualité des enfermements.
Bonjour. Au sommaire de l'actu des enfermements, ce vendredi 27 juin. Jusqu'en janvier dernier, le travail en prison n'était pas reconnu comme tel, mais considéré comme une simple occupation. Depuis cette année, l'inspection du travail est habilitée à mener des contrôles inopinés. Effet d'annonce ou réalité, Emmanuel Macron se dit favorable à louer des places de prison à l'étranger pour résoudre la surpopulation carcérale. Rappelons que la France collectionne des records avec plus de 83 000 personnes incarcérées. Les prisons sont au bord de la rupture, ce cri d'alarme est lancé par des directeurs pénitentiaires. Dans un communiqué, le syndicat national des directeurs pénitentiaires, CFDT, estime que la surpopulation dans les prisons entraîne une situation explosive. Justice des mineurs, le Conseil constitutionnel rappelle que les enfants ont des droits.
L'actualité des enfermements.
Désormais, les détenus qui exercent une activité professionnelle en prison peuvent contacter en toute confidentialité l'inspection du travail et lui signaler une anomalie ou un danger. Une avancée nécessaire dans le milieu carcéral où les conditions de travail sont parfois dangereuses. Dans les 600 ateliers que comptent les établissements pénitentiaires français, les activités professionnelles des détenus relèvent d'un régime spécifique et leur rémunération atteint au mieux 45% du SMIC horaire. Alors que toute action collective pour demander des améliorations est passible de sanctions, une réforme a permis de timides avancées en créant un contrat d'emploi pénitentiaire posant un premier cadre sur l'accès à quelques droits sociaux. Mieux, depuis janvier 2025, l'inspection du travail peut mener des contrôles inopinés. Un décret est venu changer le périmètre de leur intervention, jusque-là conditionné à une invitation des directions d'établissement. Un enjeu de taille au vu de la vétusté de nombreux établissements. En réalité, les lieux où se pratiquent les activités professionnelles sont décrits comme vieillissants, voire insalubres, ou structurellement humides. Les inspections relèvent aussi des sols abîmés, causant des glissades, des absences d'aération dans des ateliers de peinture ou de soudure. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a déjà largement documenté les problèmes. Absence d'équipement de protection, de captage des poussières et des pollutions à la source, des risques d'incendie, des machines sans protection. Des prisonniers évoquent, eux, les températures difficilement soutenables, pas d'accès à l'eau potable, des coups de jus à cause d'installations électriques défectueuses, une exposition à des produits toxiques ou de l'amiante. Le contrôleur général et les inspecteurs du travail témoignent aussi d'activités de manutention dangereuses, de sanitaire à l'hygiène défaillante ou de l'utilisation de matériel inadapté. Malgré un champ réduit aux questions de santé et de sécurité, les visites des inspections de travail en prison peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail des détenus. Mais dès que ça coûte un peu d'argent, ça n'avance plus. Sur des questions de ventilation, par exemple, un inspecteur déclare faire les mêmes observations depuis 15 ans. Désormais, l'inspecteur du travail pourrait suspendre le chantier en cas de danger. Le décret paru 2025 aligne en effet les compétences de l'inspection du travail sur les contrôles menés à l'extérieur, ouverture d'un droit d'enquête, possibilité de prélever des produits ou de dresser des procès-verbaux d'infraction. Malgré ces avancées, la régularité des contrats de travail, des recrutements ou des rémunérations reste exclue de leur champ de contrôle. La mission des inspectrices et inspecteurs se heurte par ailleurs aux pesanteurs de l'administration pénitentiaire. D'habitude, les inspecteurs peuvent débarquer directement sur un lieu de travail. En prison, il faut attendre que l'on vérifie l'identité à l'entrée, puis qu'on ouvre plusieurs portes. Cela peut prendre jusqu'à une heure avant d'arriver à l'atelier. En prison, l'offre de travail se répartit dans deux grands domaines. Environ 6800 personnes sont employées quelques heures par jour au service général. Elles y effectuent des tâches liées à la vie quotidienne de la prison, cuisine, buanderie, manutention. Les autres travaillent dans un des 600 ateliers de production pour le compte d'entreprises privées. Aliments, vêtements, prospectus, cosmétiques. De nombreux objets du quotidien sont confectionnés ou emballés par des personnes détenues à des coûts très avantageux pour les employeurs. Pourtant, le travail continue à manquer en prison, notamment dans les maisons d'arrêt surpeuplées où sont incarcérés les prévenus ou les personnes condamnées à des courtes peines. Les femmes sont aussi discriminées dans l'accès à un emploi. Aujourd'hui, environ 30% de la population carcérale exerce une activité salariée. Au vu de l'offre de travail largement insuffisante, avoir un emploi en prison, même très précaire, est un privilège. En plus de permettre de sortir de cellule quelques heures par jour, les maigres revenus permettent d'améliorer l'ordinaire.
L'actualité des enfermements.
Incapable d'honorer sa promesse électorale de créer 15 000 places supplémentaires pour régler le problème de surpopulation carcérale, le président de la République envisage aujourd'hui de louer des places de prison à l'étranger. Oui, on louera si besoin était les places de prison là où elles sont disponibles. Pas de tabou là-dessus, a-t-il assuré en conférence de presse. Certains pays européens comme la Norvège, la Belgique ou le Danemark ont déjà mis en œuvre cette pratique ou sont sur le point de le faire. On peut aussi rappeler que Trump utilise les prisons salvadoriennes pour enfermer les sans-papiers. Macron a aussi assuré vouloir changer les règles pour la construction des 15 000 places de prison prévues d'ici 2027, afin d'avoir des structures plus légères et beaucoup plus rapides à construire. Les chiffres de la surpopulation carcérale battent chaque mois de nouveaux records. Il y a actuellement près de 84 000 détenus en France pour 62 358 places, soit une densité carcérale globale de 134%. Il a par ailleurs qualifié de tout à fait pertinente l'idée de faire participer les détenus aux frais de leur incarcération, comme envisagé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ils ignorent apparemment que cela existe déjà pour les détenus qui travaillent, mais il est vrai que travailler en prison n'est pas à la portée de tous les détenus, tant les places sont rares. Quant à la grande majorité des prisonniers, il s'agit d'une population indigente.
L'actualité des enfermements.
Au 1er mai 2025, la densité carcérale globale en France était de 134%, avec près de 84 000 détenus pour 62 570 places et des pointes à plus de 200% dans 23 établissements. Cette inflation entraîne des conditions de détention indignes et compromet la sécurité et la réinsertion. Personnel de la pénitentiaire, professionnels de la justice, associations, détenus et familles n'en peuvent plus de dénoncer les conditions indignes qui règnent dans les établissements et craignent réellement un été à haut risque. Les annonces choquent des responsables politiques qui réclament plus de sévérité et de nouvelles lois ultra-répressives à chaque fait divers n'augurent rien de bon, au contraire. Face à cette situation, le syndicat critique les annonces politiques contradictoires et appelle à un plan d'action d'urgence. Nous rendons aujourd'hui à la société des personnes potentiellement plus dangereuses qu'au jour de leur incarcération, a encore indiqué le syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT. Non majoritaire dans la profession, il représente des directeurs de prison et de services pénitentiaires d'insertion et de probation. La surpopulation met dangereusement à mal la sécurité des personnels, souligne encore le syndicat dans son communiqué. L'objectif de réinsertion des personnes détenues est durablement obéré. Les annonces politiques qui s'accumulent et parfois se contredisent ne répondent pas à l'urgence du moment et ne font aujourd'hui que déplacer, voire aggraver les problèmes, juge le syndicat. Les ministres de la Justice, Gérald Darmanin, et de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ont multiplié ces derniers temps les propositions choc début juin. Après les violences commises en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions le 31 mai 2025, le garde des Sceaux avait notamment proposé de faire évoluer radicalement la loi en supprimant les aménagements de peine obligatoires et le sursis. Depuis 15 ans, il y a une évolution négative des conditions de détention. La surpopulation C'est le mal absolu dans la prison, pour les détenus comme pour les surveillants. Concrètement, ça veut dire de la promiscuité, moins de temps de promenade, moins d'activité. Or, les activités, c'est essentiel en prison. Au vu de ces déclarations, pour interdire les activités ludiques en prison, Gérald Darmanin a complètement oublié l'idée de réinsertion, à moins que ça n'entre dans son projet de politique électorale.
L'actualité des enfermements.
Le Conseil constitutionnel a censuré l'essentiel de la loi Attal, prétendant durcir la réponse pénale face aux adolescents. C'est un fiasco politique pour Gabriel Attal, qui avait mijoté sa réforme autoritaire de la justice des mineurs depuis Matignon, en réponse aux révoltes urbaines de l'été 2023. Dans une décision rendue du jeudi 19 juin au soir, le Conseil constitutionnel, saisi par des élus de gauche, a censuré les mesures phares de son texte, soutenu par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et adopté par le Parlement en mai dernier avec les voix du Rassemblement national. Nombre de représentants des droites et extrêmes droites, de Bruno Retailleau à Jordan Bardella, avaient fait savoir combien cette loi restait insuffisante à leurs yeux face à ce qu'ils appellent les nouveaux barbares. Mais les sages viennent d'indiquer à ces apprentis sorciers que le durcissement proposé par le patron des députés Renaissance outrepassait déjà les bornes constitutionnelles. En refusant l'instauration de comparution immédiate, la fin de l'atténuation de responsabilité ou encore l'allongement de la détention provisoire que la loi Attal prétendait autoriser dans certains cas, le Conseil constitutionnel rappelle que les enfants ont des droits et que la justice pénale des mineurs doit respecter des principes hérités notamment de la fameuse ordonnance de 1945 qui avait imposé dans une société pas moins violente qu'aujourd'hui la primauté de l'éducatif sur le répressif pour toutes celles et ceux qui n'ont pas atteint 18 ans. Au milieu de cette hécatombe, survivent tout de même quelques mesures jugées conformes par le Conseil, dont la surpénalisation des parents dits défaillants quand leurs enfants commettent des infractions. Cette décision importante, rendue sous la présidence du macroniste Richard Ferrand, a le mérite de disqualifier par avance d'autres pistes plus radicales encore. En droit, cette décision s'appuie sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Celui-ci se décline en deux règles auxquelles le législateur ne peut déroger. D'abord, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge. Ensuite, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon de procédures appropriées. Aujourd'hui, dans certains cas, les magistrats peuvent déjà faire sauter ce principe historique qui veut que les peines encourues par les moins de 18 ans soient divisées par deux. Mais la loi Attal prétendait faire de l'exception la règle pour les récidivistes de plus de 16 ans ayant commis un crime ou un délit passible de 5 ans de prison. Aujourd'hui, les parents peuvent déjà être condamnés pour s'être soustraits à leurs obligations parentales en matière de soins, de sécurité ou de moralité. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une infraction peu utilisée. La loi Attal crée une circonstance aggravante quand ce manquement aura directement conduit à la commission par l'enfant d'un crime ou d'un délit. 3 ans et 45 000 euros. Même si la famille n'en avait pas connaissance. Sur ce point, les sages ont rejeté tous les griefs soulevés par les parlementaires de gauche qui rappelaient que nul n'est punissable que de son propre fait et qui craignent une précarisation supplémentaire de familles fragiles. Dans la soirée, refusant tout défaitisme, Gabriel Attal a promis de travailler à l'écriture d'un nouveau texte, estimant que le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le principe, mais les modalités, et donner les éléments qui permettrait de rendre la mesure constitutionnelle.
L'actualité des enfermements.
Merci de votre attention et merci à Morgan pour la technique. On se retrouve demain avec d'autres sujets de réflexion sur les enfermements.
L'actualité des enfermements.
C'était donc l'actualité des enfermements par Louis Perregaux sur Ici l'ombre, la radio qui suit les rencontres sur les enfermements au parc de la Baume à Dieulfi. Cette matinale touche à sa fin. Pour les personnes qui ont écouté aussi jusqu'à présent, celles qui ne prennent pas le fil là tout d'un coup, pour qui voudraient savoir où on peut trouver tous les épisodes des podcasts dont nous avons parlé précédemment avec Dominique Simoneau et Pauline Lemaire, Dominique Simoneau, contrôleuse des lieux de privation de liberté, eh bien ces podcasts, vous pourrez en tout cas les retrouver lorsqu'ils seront édités sur Prison Insider, sur le site de Prison Insider. Ils seront aussi sur la plupart des plateformes. Voilà, il faudra se tenir un peu au courant, au fil des mois. Alors, auditeurice de Radio D'ici et Radio Là, et puis vous, les spectateurs dans le parc de la Baume, vous pourrez suivre jusqu'à 19h aujourd'hui, demain et dimanche ce programme spécial D'ici l'ombre, la radio qui suit donc les rencontres concertina. On poursuit notre programme avec Super Mix, un max de sons préparé par Bruno Seriba. Alors, il y a trois thèmes qui seront abordés au fil des Super Mix. Ce matin, donc, c'est la nourriture en prison, des sons divers et variés sur la nourriture en prison. Et cet après-midi, à 16h30, vous retrouvez Super Mixte avec cette fois la grève de la faim. Et demain, à 11h, le Super Mixte sera consacré au désir, parce que l'appétit, c'est aussi le désir dans tous les sens du terme. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et à tous. Et à toutes, pardon. Soyez bien attentifs à tout ce qui se passe sur Ici l'ombre et sur les rencontres concertina sur les enfermements à Dieulfi au parc de la Baume. Au revoir à tous et à toutes.
Allez, vas-y, générique, vas-y, top.
Tout à fond, et tout à fond.
Super Mix.
Super Mix.
Y'en a encore long là, hein?
Un max de son.
Parce qu'on va être vachement à la bourre.